Deutsche Welle, Économie et développement.
L'industrialisation des pays africains, c'est un sujet dont on parle souvent dans ce magazine, tant les enjeux sont importants en matière de développement économique et d'emploi. Dans ce numéro, nous allons nous intéresser au cas du Burundi, membre du COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Et en seconde partie, il sera question de la guerre commerciale entre deux géants, les États-Unis et la Chine. C'est Claire-Marie Kostmann au micro, bienvenue. Créons la dynamique qui nous permettra d'accroître le commerce intra-africain, de parvenir à l'industrialisation, à créer plus de perspectives d'emploi pour nos populations, a déclaré le président nigérien Mahamadou Issoufou lors du sommet de l'Union africaine à Nouakchott début juillet. Lors de cet événement, 5 pays ont rejoint la zone de libre-échange continentale pour créer un marché commun sur le continent. Parmi eux, le Burundi, dont le secteur industriel est encore peu développé, mais petit à petit, des efforts sont faits. Illustration avec ce reportage d'Antéditest Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
L'industrie burundaise est peu développée comparée au reste des pays de la communauté est-africaine. Selon le rapport d'enquête du ministère burundais du commerce et d'industrie de 2017, la part de la valeur ajoutée manufacturée est allée en diminuant depuis 2015 pour stagner à 2%. Néanmoins, ce secteur contribue à hauteur de 10% au produit intérieur brut. 60 industries sont formellement établies au Burundi depuis les années 1960. D'autres comptées par dizaines évoluent dans le secteur informel. Les industriels cèdent de se conformer aux exigences locales en matière de production et de commercialisation. Ils se heurtent souvent au faible pouvoir d'achat suite à l'incapacité socio-économique de la population. Ainsi, la production cible le marché international. Emmanuel Avialimana est le responsable commercial à Bakosa Grain Milling Burundi, une unité de transformation agroalimentaire. Pour lui, la fixation des prix tient compte du marché local et international.
Après la production de nos produits, nous les vendons ici sur ce marché, même nous les exportons de temps en temps. Ici, nous avons beaucoup de types de nos produits. Nous avons de la farine, subdivisée dans plusieurs catégories selon les besoins de la population. Nous contribuons à ce que le niveau de vie de la population, en ce qui est de la santé, s'améliore.
Comment se présentent les prix de vos produits?
Nos prix vraiment sont concurrentiels comparativement aux autres. Nous avons évalué le pouvoir d'achat de la population, donc nous avons tenu en considération de ça. Donc nos prix vraiment sont abordables, personne ne peut se plaindre, compte tenir aussi de sa qualité.
Josias Bigirimana assure le marketing et la commercialisation des produits fruitiers de la filiale dite Keza Mutima. La conservation n'étant toujours pas facile, les fruits produits localement sont transformés sur place avant la commercialisation.
Keza Mutima transforme des fruits naturels du Burundi en jus ou en sirop ou nectar de fruits. Les produits de base sont maracuja ainsi que les ananas. Nous transformons les ananas, nous avons le jus d'ananas sans sucre ajouté. Nous avons aussi le jus de maracuja, le nectar ainsi que le sirop où on ajoute de l'eau. Le nectar de maracuja mélangé, nous vendons ça à 1500. Quand quelqu'un boit ça, il consomme deux fruits naturels et qu'il paie 1500 pour le fruit déjà transformé. En tout cas, le prix n'est pas exorbitant.
Le souci d'appui au secteur industriel émerge progressivement. Interpellé par la place de l'industrie burundaise dans la sous-région est-africaine, Trademark East Africa est une organisation régionale soucieuse de promouvoir l'industrie burundaise pour la pousser vers la compétitivité régionale. Alice Nibitanga, présidente de Trademark East Africa, nous parle des initiatives déjà entreprises.
Pour promouvoir le secteur d'industrie, nous avons beaucoup d'interventions de renforcement des capacités des entreprises, mais aussi de facilitation d'accès au marché pour les entreprises. Par exemple, à travers un projet qu'on a appelé Tradelinks, on a identifié 20 entreprises qui ont été accompagnées pour se mettre à niveau par rapport à la qualité, par rapport même aux questions de comment établir les prix. Et avec ces entreprises, on a organisé des missions commerciales dans les pays de la sous-région pour qu'ils puissent rentrer en contact avec des potentiels acheteurs. Trademark œuvre sur plusieurs piliers pour contribuer à ce qu'en fait les entreprises burundaises puissent aussi produire à moindre coût et une qualité qui est reconnue sur les marchés régionaux et ailleurs.
Malgré les avancées significatives déjà enregistrées ces dernières années, les défis à relever restent nombreux pour réellement booster l'industrie burundaise. Explication d'Olivier Suguru, président de l'Association des industriels du Burundi.
Le Burundi, c'est un pays qui est enclavé. Alors, ils ont eu du mal à soutenir les industries avec le coût de transport des matières premières, puisqu'on n'a pas accès directement à la mer. Et l'autre difficulté, c'est une difficulté qui est liée au manque de compétences au niveau des usines. Nous connaissons des lauréats des écoles techniques qui ne sont pas aptes, mais nous avons aussi un programme de chercher comment former nos candidats pour qu'ils puissent aussi se mettre au même niveau que les autres. Sinon, on sera obligé de continuer à importer de la main-d'œuvre qui vient de la sous-région. Et l'autre défi, nous avons toujours connu des barrières tarifaires. On avait un problème d'avoir une politique nationale d'initialisation, mais que cette politique va avoir le jour d'ici peu. Donc tous les outils sont là, il faut juste les exploiter et il n'y a pas de souci que nous allons investir pendant.
Selon le rapport régional est-africain de 2017, l'Afrique de l'Est a enregistré une croissance économique moyenne de 5,9%. Le Burundi est l'avant-dernier pays sur la liste des pays qui y ont contribué dans une moindre mesure, mais sans précision selon ce rapport. Le gouvernement burundais promet de soutenir l'industrialisation avec la mise en place d'une politique nationale d'industrialisation dont le manque constitue jusqu'ici un frein à la promotion de l'industrie locale. Antéditeste Niragira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
La guerre commerciale est déclarée entre les États-Unis et la Chine. Depuis la semaine dernière, une taxe de 25% a été imposée par les États-Unis sur plus de 800 catégories de produits chinois, soit 34 milliards de dollars d'importation. En représailles, Pékin a annoncé des droits de douane d'une ampleur similaire sur des produits américains et le recours à l'OMC. Alors pourquoi parle-t-on de guerre commerciale entre les deux puissances ? De nombreux pays, dont les États-Unis, ont un déficit commercial vis-à-vis de la Chine. Et pour comprendre cela, il faut remonter 18 ans en arrière. Écoutez les explications de Philippe Lecor, il est chercheur spécialiste de la Chine à la Harvard Kennedy School de Boston, aux États-Unis.
Vous vous souvenez peut-être qu'en 2000, la Chine a été admise dans l'Organisation mondiale du commerce. Ça a, si vous voulez, permis à la Chine de multiplier ses exportations avec une baisse des taxes, si vous voulez, sur les exportations de produits chinois, ce qui a permis à l'industrie chinoise de continuer à prospérer. Donc, pendant ce temps-là, il y a eu un certain nombre de crises économiques et financières en Occident, bien connues, la plus connue étant, disons, la dernière, celle de 2008, qui a provoqué un certain nombre de faillites, notamment dans des sociétés occidentales, en particulier aux États-Unis. Donc, ça a provoqué des licenciements, des crises sociales diverses. Et donc, Donald Trump, pendant sa campagne présidentielle de 2016, a déclaré, mais il n'était pas le premier président américain ou candidat à la présidence à le faire, à dire que la Chine était responsable un petit peu de tous les maux de l'économie américaine, notamment de l'industrie américaine. Et donc, il a déclaré qu'il allait imposer des sanctions commerciales pour essayer de rééquilibrer la situation entre la Chine et les États-Unis, ce déficit commercial énorme entre les deux pays. Et donc, il allait imposer des sanctions commerciales. Donc, il a parlé d'abord de 50 milliards de sanctions, ensuite 100 milliards. Maintenant, on parle de 200 milliards. Donc, ce sont des sommes énormes. Ça correspond à des produits, etc. Mais vous imaginez la complexité pour définir tous ces produits chinois. Ce qui est compliqué, c'est que il y a des entreprises américaines qui participent parfois à ces produits chinois. C'est-à-dire que vous avez par exemple, les iPhones, ils sont fabriqués en partie en Chine. Donc, si vous voulez, ça complique un peu les choses.
Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans les supermarchés américains, il y a énormément de produits chinois. C'est comme l'Europe. Oui. Maintenant, ça semble impossible de se passer des produits chinois.
Oui, absolument. Il y a une dame, une journaliste qui avait écrit un livre il y a une dizaine d'années, Une année sans produits chinois, c'était le titre de son livre, c'était très amusant, mais elle avait eu du mal pendant un an et c'était il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est quasiment impossible quand on vit aux États-Unis, de se passer des produits chinois. Et je ne pense pas que ce soit d'ailleurs le but, si vous voulez. Le but, c'est qu'on vende davantage de produits américains à la Chine. Alors, c'est bien sûr hein, un peu de la politique, c'est-à-dire que Trump défend depuis le début une politique un peu unilatérale, si vous voulez, c'est-à-dire que isolationniste, j'allais dire, qui consiste à remettre en cause des accords commerciaux. Mais on ne sait pas très bien qui va sortir gagnant de cette guerre commerciale, parce que finalement, la Chine a également pas mal besoin de continuer à vendre ses produits. Si ça provoque une chute des marchés boursiers notamment, bon, ça risque de déstabiliser beaucoup de choses en Chine, dans le reste du monde, peut-être encore plus dans le reste du monde d'ailleurs.
On voit aussi c'est qu'il y a peut-être un risque avec le fait que la Chine est le premier créancier des États-Unis.
Oui, absolument, notamment à travers des bons du Trésor. Mais ceci dit, ils en ont vendu un certain nombre, mais effectivement, l'Amérique est endettée. Et les fonds chinois ont acheté énormément de bons du Trésor depuis maintenant une quinzaine d'années, parce que la Chine, vous savez, a un niveau de réserve financière très élevé. Donc, il y a effectivement cette notion de dépendance. En fait, ça, à la limite, si vous voulez, c'est au niveau de la finance. C'est pas vraiment, ça touche pas directement le consommateur. Vous voyez, en revanche, là, on est dans une situation où une guerre des taxations, ça risque de faire beaucoup de dégâts, y compris pour les entreprises américaines qui essaient de vendre à la Chine. Par exemple, on parle beaucoup de l'agriculture. Soja américain va être des premiers secteurs à être touchés par les mesures de rétorsion chinoise. Il y a l'automobile américaine aussi. Donc les gens, évidemment, sont très inquiets dans ce secteur-là.
Ce magazine est en réécoute sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.